Attention, 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent à un club mythique du rugby français, le Racing Club Narbonnais. Le Racing Club Narbonnais est fondé en 1907. C'est l'année de la révolte des vignerons. C'est dans ce contexte particulièrement douloureux qu'un match défi oppose les Narbonnais aux militaires du 80e régiment d'infanterie. Ce sont les Narbonnais qui l'emportent. Narbonne, c'est 2 titres de champion de France en 1936 et 1979 pour 5 finales perdues. C'est surtout le club qui compte à son actif le plus de challenges Yves du Manoir, avec 9 victoires pour 12 finales. Narbonne est champion de France en 1936 en battant Montferrand, 6 à 3. Narbonne, porte-drapeau de l'Aude, dont la grande majorité de la population a voté pour Léon Blum et le Front Populaire, face au club de Marcel Michelin, un des plus grands industriels de l'époque. Tout commence mal pour Narbonne, déjà privé avant la finale de son capitaine et pilier André Pignol, blessé lors de la demi-finale gagnée face à l'USAP. Le pilier Escafre est expulsé à la 30e minute. Une pénalité de 50 mètres, impensable à l'époque, est réussie par Montferrand. Mais finalement, Narbonne l'emporte 2-0. Narbonne a raté la dernière marche, en 1932 et 1933, battu à chaque fois par Lyon, le Loup. En 1932, un schisme apparaît. Il oppose dirigeants de la Fédération française de rugby et représentants de l'UFRA, l'Union française de rugby amateur. 14 clubs font sécession et créent leur propre compétition. Toulouse, Bayonne, Perpignan, le Stade français, Tarbes, Biarritz font partie des dissidents. Le Loup remporte son premier titre. Des bagarres et un expulsé de chaque côté. Narbonne s'incline 9 à 3. Heureusement, pendant ce temps, FFR et UFRA trouvent un accord et tout rentre dans l'ordre pour 1933. En 1933, Narbonne s'incline face à Lyon 10 à 3. Narbonne avait été demi-finaliste en 1925, 1931 et 1934. En avril 1938, c'est un passage forcé au rugby à 13. En 1974, Narbonne s'incline face au Grand Béziers 16 à 14, une grande finale. Elle est assurément la plus mémorable des années 1970. L'AS Béziers a quelque chose d'âpre et de minéral. C'est un bloc au sein duquel la force brutale d'Alain Estève, la finesse et l'intelligence de Richard Astre, la fantaisie de Jacques Cantoni dessinent des aspérités. Le Racing Club Narbonnais peut être abrasif aussi. S'y détachent des personnalités flamboyantes, celles de Walter Spanghero, généreux, truculent, et son frère Claude, de Joe Mazo, le grand attaquant de sa génération. Narbonne avait battu Béziers 13 à 6 en finale du challenge Yves du Manoir. Lors de la finale de 1974, Béziers vire en tête à la pause, 10 à 7. Narbonne reprend l'avantage grâce à un essai de Sangali et une pénalité de Benacloy. Cabrol, l'ouvreur bitérois, va ramener Béziers à 1 point de Narbonne, 13 à 14. Sur le dernier lancé en touche, le deuxième ligne narbonnais, Claude Spanghero, ne se méfie pas du jeune deuxième ligne de Béziers, Michel Palmier, qui lui marche sur les pieds et détourne le ballon vers Astre qui transmet à Cabrol pour le drop victorieux. Ce drop, 40 ans après, on en parle encore. Score final pour Béziers, 16 à 14. En 1979, dans une finale qui sent la poudre, avec des expulsions de chaque côté, Narbonne prend sa revanche et bat logiquement Bagnères, 10 à 0. Claude Spanghero survole la touche. Sangali l'ancien et Cordonneur le jeune s'impose au centre des lignes arrières. Lucien Pariès assure à l'ouverture. L'international bagnéré Michel Aguirre échoue dans cette tentative de tir au but. Narbonne est resté 88 ans en première division, mais aujourd'hui il fait partie de la nouvelle division nationale, troisième division. Il s'y maintient dans la première partie du classement. Walter Spanghero est né le 21 décembre 1943 à Peyrat-sur-l'Hers, dans l'Aude. Son père, Dante Ferruccio Spanghero, immigré du Frioul italien, ayant fui le régime de Mussolini, arrive dans les années 1930 pour y gagner sa vie comme maçon. Il donnera naissance à 6 garçons et 2 filles. Il travaillera à la ferme. Walter débute tardivement, à 17 ans, le rugby dans la ville de Bram, là où a joué son père. Il rejoint Narbonne en 1961. Il compte 51 sélections en équipe de France. Il est du Grand Chelem de 1968. C'est un immense joueur, un physique à la Spartacus, 1m87 pour 102 kilos. On retiendra sa masse, sa puissance, son abnégation, mais aussi sa science du jeu. En 1969, un tiers de l'équipe de France est narbonnaise, avec Walter Spanghero en tête de gondole devant Bénessis, Viard, Sutra et Mazo. Sa reconversion s'est effectuée dans la location de voitures sur Toulouse. Joe Mazo est né le 27 décembre 1944 à Toulouse. Il a débuté par le jeu à 13, car son père était un international à 13. Il débutera au Racing Club de Toulon, entraîné par Jean Carrère, qui l'aura entraîné durant la quasi-totalité de sa carrière, de Toulon à Narbonne, en passant par Perpignan. Il compte 25 sélections en équipe de France de 1966 à 1973. Joe Mazo est avec Serge Blanco celui qui a incarné à l'étranger une certaine idée du jeu à la française, inspiré et flamboyant. Seulement, dans le rugby français des années post-68, dirigé d'une main de fer par le duo Ferras-Basquet, Mazo a dû payer au prix fort ses cheveux longs, sa gueule d'ange, mais aussi ses admirations et son amitié pour André Boniface. Toutes choses que détestait Guy Basquet, le président du comité de sélection. Joe Mazo sera régulièrement oublié de l'équipe de France. Il deviendra manager du 15 de France de 1995 à 2011. Durant cette période, l'équipe de France remporte le Grand Chelem lors des éditions de 1997, 1998, 2002, 2004 et 2010. Didier Codorniou, dit le Petit Prince, est né le 13 février 1958 à Narbonne. Il va donc faire son apprentissage en équipe première de Narbonne à 17 ans, entre Joe Mazo et François Sangali. Il compte 32 sélections à l'équipe de France. Il sera champion de France 1979 avec le Racing Club Narbonnais face à Bagnères. Dans la foulée, il sera un des acteurs importants de la victoire française sur les All Blacks le 14 juillet à l'Eden Park. Jusqu'en 1985, il va être un incontournable des Bleus, associé à Christian Belastquin, puis à Philippe Sella. Avec l'air de Jacques Fourou et le rugby physique, il sera sacrifié, comme avant eux, André Boniface et Joe Mazo. Il quittera Narbonne en 1986 pour le Stade toulousain, avec qui il sera associé au centre de l'attaque à Denis Charvet. Avec le Stade toulousain, il sera champion de France 1989 face à Toulon. Il est maire de Gruissant, dans l'Aude, depuis 2001. Narbonne est la commune la plus grande et la plus peuplée du département de l'Aude, avec ses 55 000 habitants. Néanmoins, c'est une sous-préfecture, le chef-lieu étant Carcassonne. Les Romains fondèrent en 118 avant Jésus-Christ une colonie romaine du nom de Colonia Narbomartius. Elle était située sur la Via Domitii, la première route romaine en Gaule qui permettait de relier l'Italie et l'Espagne. En 719, la ville fut conquise par les troupes arabo-berbères musulmanes des Omeyyades venues de la péninsule ibérique. Les Omeyyades en font la capitale d'un épicentre et d'une éphémère province pendant 40 ans, sous l'autorité de Cordoue. Au XIXe siècle, devenue capitale d'un espace viticole à partir du développement de la vigne vers 1850-1870 et profitant de sa situation de nœud ferroviaire, Narbonne se démarque politiquement. Les vignerons et commerçants sont républicains. Dans les dernières années du Second Empire, la municipalité s'oppose à Napoléon III. Narbonne se soulève, encouragée par la Commune de Paris contre les Versaillais de Thiers, et proclame la commune centrale de l'arrondissement de Narbonne. Celle-ci durera du 24 au 31 mars 1871. À la fin du XIXe siècle, Narbonne élit un maire félibrige et socialiste, Ernest Féroul, dit le docteur des pauvres, qui soutient la grande révolte des vignerons de 1907. Lors de la révolte des vignerons du Languedoc, le mois de mai 1907 fut celui des grands rassemblements dans les préfectures et les sous-préfectures du Languedoc-Roussillon. Le premier a lieu à Narbonne, où le 5 mai, un rassemblement mobilise entre 80 000 et 100 000 personnes. Le maire, Ernest Féroul, prend position pour la lutte des viticulteurs du Midi. Tous les comités de défense viticole des quatre départements se fédèrent et adoptent le serment des fédérés. Les discours séparatistes prononcés en Occitan inquiètent le gouvernement. Clémenceau jugea que force devait rester à la loi et, pour établir l'ordre, il fit appel à l'armée. Depuis le 17 juin, 22 régiments d'infanterie et 12 régiments de cavalerie occupaient tout le Midi. La gendarmerie reçut alors ordre d'incarcérer les responsables des manifestations. Le 19 juin, Ernest Féroul est arrêté au petit matin à son domicile de Narbonne par le 139e régiment de cuirassiers et est emprisonné à Montpellier. La foule entrave la progression des gendarmes en se couchant par terre. Narbonne est en état de siège. Une manifestation spontanée se crée qui réclame la libération des membres du comité viticole et crie à la vengeance. Des incidents éclatent durant toute la journée. La sous-préfecture est prise d'assaut, des barricades barrent les rues. Le soir, dans la confusion générale, la cavalerie tire sur la foule. Il y a 2 morts, dont un adolescent de 14 ans. Le lendemain, 20 juin, la tension monte encore et le Midi s'embrase. À Narbonne, l'inspecteur de police, l'un des auteurs de l'arrestation de Ernest Féroul, est pris à partie et mis à mal par la foule. Pour le dégager, il est donné ordre à la troupe de tirer sur les manifestants. Les coups de feu font 5 morts, dont une jeune fille âgée de 20 ans, Cécile Bourrel, qui se trouvait là par hasard, venue à Narbonne en ce jour de marché. Il y a plus de 33 blessés qui gisent à terre. Le 22 juin, à Narbonne, 10 000 personnes assistent aux obsèques de Cécile. Cet enterrement fut la dernière grande manifestation du Midi viticole. Entre-temps, le Parlement a renouvelé sa confiance au gouvernement. Et Jean Jaurès écrit dans l'Humanité que la Chambre a acquitté les massacreurs du Midi. Narbonne est restée très liée aux crises de la viticulture. Léon Blum y est député en 1929. Le 12 juin 1944, le maire socialiste Achille Lacroix, révoqué par le régime de Vichy, meurt en déportation dans le camp de concentration de Leimeris à l'âge de 51 ans.
C'était la chronique de Gilles Labouroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.